Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait...
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Le jeudi dernier, lors de la plénière consacrée à la levée des immunités de l'ancien président et sénateur à vie, Joseph Kabila, le Sénat a mis en place une commission technique. Celle-ci dispose des 72 heures pour examiner en profondeur ce réquisitoire de l'auditeur général des FRDC demandant la levée des immunités de l'ancien président avant de soumettre son rapport au débat de la plénière. Selon certaines sources parlementaires, les voix sont discordantes au sein même du Sénat sur cette question de la levée des immunités de l'ancien président. Par ailleurs, bon nombre d'analystes politiques, juristes, membres de l'opposition et de la société civile estiment que le Sénat ne dispose d'aucun pouvoir pour lever les immunités de l'ancien président de la République. Selon eux, seul le Congrès peut traiter de cette matière conformément à la loi portant statut des anciens présidents. L'ancien chef de l'État est accusé de collaboration avec la rébellion de l'AFC M23 dans le but de renverser les pouvoirs actuels. Que pensez-vous de cette controverse autour de la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9716-80-79. Debs Vita est à la mise en nom de ce magazine. Julie Feza Bongonda sur la réalisation, la coordination de Nelson Nyombela pour l'équipe multimédia et micro, c'est Marcel Ngombalo. Tout à toutes et à tous. C'est sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Merci de nous écouter partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre sur nos plateformes digitales de Radio Capi, à savoir X, Facebook et YouTube. Nous parlons aujourd'hui de cette controverse sur la levée des immunités de Joseph Kabila le jeudi dernier lors de la plénière consacrée à la levée des immunités de l'ancien président et sénateur Joseph Kabila. Le Sénat a mis en place une commission technique. Celle-ci dispose de 72 heures pour examiner en profondeur ce réquisitoire de l'auditeur général des FRDC demandant la levée des immunités de l'ancien président avant donc de soumettre son rapport au débat à la plénière. Selon certaines sources parlementaires, les voix sont discordantes au sein même du Sénat sur cette question de la levée des immunités de l'ancien président. Par ailleurs, bon nombre d'analystes politiques, juristes et membres de l'opposition et de la société civile estiment que le Sénat ne dispose d'aucun pouvoir pour lever les immunités d'un ancien président de la République. Selon eux, seul le Congrès peut traiter de cette matière conformément à la loi portant statut des anciens présidents. L'ancien chef de l'État est accusé de collaboration avec la rébellion de l'AFC M23 dans le but de renverser le pouvoir. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous vous disons merci et nous rappelons le numéro si vous voulez intervenir en direct. C'est 09-716-80-79. Et pour en parler, nous avons en ligne depuis Lubumbashi Frédéric Amani. Frédéric Amani, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger avec les auditeurs autour de cette question de la controverse sur la levée des immunités de Joseph Kabila. Quelle analyse faites-vous de cette controverse autour de la levée des immunités de Joseph Kabila?
Bien, l'analyse est partagée. Dans la mesure où vous l'avez rappelé dans votre commentaire, une tranche de la population ou des analystes pense que ce serait une course aux sorciers de lever ces immunités et que d'autres pensent que, en tant que citoyen, tout en étant ancien président de la République, il est citoyen congolais, donc il peut être déféré devant les juridictions. Mais selon la loi, hein, parce qu'il y a une loi dans ce pays qui protège, si vous voulez bien, ou qui parle des anciens présidents et que cette loi, à son article 8, je ne m'abuse pas, montre clairement que tout ancien président de la République peut faire, peut faire objet de poursuites, mais à condition que cela soit décidé par, n'est-ce pas, les deux chambres réunies en Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je pense que de ce point de vue-là, on estimait que le président, l'ancien président Joseph Kabila, était coupable de ces infractions-là, on ne peut que réunir le Congrès, les deux chambres, pour s'appuyer sur cette question-là. Alors, un autre point de vue, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être parler du contexte, et j'aime bien les Grecs qui parlent du Cairo, les temps favorables. Moi, je pense que par rapport aux réalités qui sont les nôtres, aux réalités qu'on relève, nous sommes venus de loin, et c'est la première expérience que nous avons connue, et bien, avec tout ce qu'il y a comme instabilité, comme crise, et comme problème, n'est-ce pas, de cohésion, moi, je pense que cette question devrait être bien étudiée, et pour que ça ne puisse pas encore plonger le pays, n'est-ce pas, dans une autre fissure liée à l'unité ou à la cohésion. Donc, les avis sont partagés, mais ce qui est important, c'est de suivre ce que dit la loi. On l'a déjà dit, on ne le dira jamais assez, M. Martel, la gestion devient plus facile et plus profitable à la structure lorsque ces lois, ces principes, ces normes sont respectées. Lorsque on ne respecte pas ou on n'applique pas les lois ou les normes de la gestion, peu importe le niveau de cette gestion, eh bien, ça pose problème. Donc, ici, on peut déférer l'ancien président Joseph Kabila devant les instances, mais ne serait-ce que suivre ce que dit la loi, c'est-à-dire réunir le Congrès et statuer sur ça et avancer. Pour terminer, je voudrais évoquer ici ce qu'on peut appeler le cas de la jurisprudence, parce que ça fait débat dernièrement en France. L'ancien président Sarkozy a été condamné. Dernièrement, à Mauritanie, l'ancien président mauritanien a été condamné. Il y a aussi dernièrement au Sénégal, il y a des tractations pour, n'est-ce pas, déférer devant les instances judiciaires l'ancien président Macky Sall. Il est vrai que chaque pays a son histoire et chaque pays a ses caractéristiques, et, n'est-ce pas, de ses problèmes. Et je suis tout à fait d'accord que en devenant président de la République, on n'est pas un super-homme, on peut essayer de commettre des erreurs et on peut être déféré devant les instances, mais je ne voudrais pas qu'on compare les réalités mauritaniennes aux réalités congolaises, ni les réalités sénégalaises ou françaises. Chaque pays a son histoire. Nous avons notre histoire parsemée par des instabilités, des crises, des guerres et consorts. Et je crains que l'ancien président Kabila, qui a fait 18 ans, qui a, n'est-ce pas, encore un parti politique, bien que dernièrement, il y a, n'est-ce pas, selon le ministère de l'Intérieur, où on veut, n'est-ce pas, abolir ou supprimer, suspendre ses activités. Donc moi, je pense que on doit tenir compte de tous ces éléments-là pour que l'action qu'on veut poser ne puisse pas soit nous rétrograder ou nous mettre dans un statu quo. Voilà comment on peut, dans un premier temps, apporter notre réflexion par rapport à cette polémique qu'on vous avait dit autour de la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila, qui, jusque-là, nous attendons la commission qui a été mise en place, mais nous pensons que le respect des règles, des lois, devrait être de mise pour permettre à ce que le pays aille de l'avant et pour éviter d'autres crises ou d'autres, n'est-ce pas, d'autres malheurs afin de cimenter la cohésion nationale et l'unité pour faire face à ces problèmes d'agression, à cette guerre qui ne fait qu'embêter les milliers de familles à l'est de la RDC et dans d'autres contrées du pays.
Alors, vous le savez certainement, le jeudi dernier, lors de la plénière consacrée justement à la levée des immunités de l'ancien président et sénateur Joseph Kabila, en tout cas, selon certaines sources parlementaires, les voix ne s'accordaient pas au sein même du Sénat sur cette question de la levée des immunités de l'ancien président. Et voilà, le Sénat a mis en place une commission technique et celle-ci dispose de 72 heures pour examiner en profondeur ce réquisitoire avant de soumettre son rapport au débat de la plénière. Vous pensez que c'était sage de la part du bureau du Sénat?
Moi je pense que d'abord, je reprends vos mots, est-ce que c'était sage? D'abord, le bureau du Sénat, c'est aussi cette chambre de sagesse et des sages. Et donc, tout ce que le Sénat fait doit être vu comme une sagesse. Moi, je pense que en tenant au respect des lois, d'un point de vue et au regard du texte qui régit cette question, je pense que cette question ne devrait pas être traitée parce que la loi est claire. Pour qu'un ancien président fasse objet de poursuites, on doit réunir le Congrès. Je pense que à ce niveau-là, soit le Sénat devrait harmoniser avec, la Cour militaire, ou dire que la question est recevable, mais n'est pas fondée. Je pense qu'en votant ou en mettant en place la commission technique pour statuer sur cette question, je crains qu'il y ait encore des divisions, vous l'avez rappelé, au sein du Sénat, il y a déjà cette division où un groupe, une frange de sénateurs ne veut pas parler de cette question, l'autre voudrait aller jusqu'au bout. Moi, je pense que selon la loi, on ne devrait pas statuer sur ça. Mais en statuant, ça risque de créer une jurisprudence qui, demain après demain, on peut l'opposer aussi à d'autres, parce que aujourd'hui on est gouvernant, demain on peut aussi être gouverné, voyez-vous. Donc, moi je pense qu'on pose les actes, pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir, pour le futur. Aujourd'hui, je crois que cette question risque de mettre en place une jurisprudence qui risque de mettre à mal et l'unité nationale et aussi les ambitions des autres en mettant en place une commission que la loi, d'un point de vue, n'autorise pas. La loi est claire là-dessus. Donc moi je pense que le Sénat comme la chambre des sages est... Eh bien, nous avons besoin de cette sagesse pour la bonne marche du pays et pour l'émergence de notre pays. On doit apprendre de l'histoire, M. Marcel. Nous venons de loin. C'est la première fois que notre pays connaît une alternance. Peu importe les tractations qui sont autour de cette alternance, mais on doit, n'est-ce pas, se féliciter d'avoir vu une passation civilisée entre un ancien président et un nouveau président. Et on aimerait, n'est-ce pas, que ces cycles perdus pour notre maturité démocratique, mais aussi pour notre stabilité. On l'a dit, on l'a toujours dit, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès sans paix et sécurité. Je crains, ce que je ne souhaite pas, M. Martin, je crains que cette question nous divise davantage au lieu de nous unir, bien que ça peut faire plaisir aux uns et ça peut faire mal aux autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est face à l'histoire et qu'on doit apprendre de nos erreurs du passé, on doit apprendre de ce qui s'est passé dans l'ancien temps, et on doit construire l'avenir du pays. Et construire l'avenir du pays, c'est de ne pas se venger contre X ou Y, mais de chercher à unir les uns et les autres pour regarder et faire face à un défi qui est le défi sécuritaire face à l'agression dont la RDC est victime à l'est du pays. Alors que tous les efforts doivent être mis en œuvre pour ne pas résoudre d'abord cette question de sécurité, cette question d'agression, afin de penser à autre chose. On risque de prendre beaucoup de choses et ça risque de peser sur nous. Il y a les négociations à Doha, les négociations à Washington, il y a les négociations de l'Union africaine, il y a les tractations du Parti social. Donc, il y a tout ça. C'est pour la stabilité, c'est pour la cohésion, c'est pour la paix. Mais de l'autre côté, il y a aussi les poursuites contre les X ou Y. Je crois que c'est, comme tu dirais, on veut une chose et son contraire, M. Martel. Moi, je suis tout à fait, l'impunité doit être punie, comme on le dit, mais ça doit être aussi fait de manière à ce que ça ne crée pas encore un fossé de cohésion, sinon on risque de faire beaucoup d'efforts de bien. Mais ces efforts risquent d'être entanchés par aussi d'autres erreurs stratégiques qu'on peut commettre et ça peut mettre à mal la cohésion, la stabilité et le développement.
Donc vous, voilà est, vous estimez
dire encore par rapport à cette question.
Vous estimez qu'il faut éviter de mettre en mal tout ce que les gens ne cessent de réclamer, la cohésion nationale en ce moment où notre pays traverse un tournant. En tout cas, dans son histoire politique, avec tout ce qui se passe à l'est du pays, vous estimez qu'il faut se conformer à la loi portant statut des anciens présidents. S'il faut traiter de cette matière, donc seul le Congrès a la compétence de le faire. On revient à vous, Frédéric Amani. On va ouvrir les standards. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient réagir. Nous avons Sylvain Guenoff qui nous appelle depuis Mayagui. Il y a également Maître Patrick Odia qui est à Lubumbashi. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la fréquence de la PC, votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la controverse sur la levée des immunités de Joseph Kabila. Si vous voulez intervenir, composez 09-716-80-79.
Parole aux auditeurs.
Sylvain Aguenoff nous appelle depuis Mayagui. Sylvain, vous avez la parole.
Bien, Marcel, je voudrais saluer M. Amani. Et je suppose que l'émission d'aujourd'hui doit être vraiment pédagogique. C'est une question de la nation. L'article 8 dont mon frère Amani vient de soulever est clair. Et peut-être pour ceux qui n'en ont pas, M. Marcel, permettez que nous puissions le lire aux gens afin que le Sénat ne tombe pas dans l'erreur. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Les poursuites contre tout ancien président de la République, élu, sont soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réunis à Congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Full stop. Que fait le Sénat dans cette démarche-là de la poursuite de l'ancien président Kabila? Monsieur Marcel, je veux dire trois choses pour laisser la parole aux autres. Je comprends parfaitement les dilemmes dans lesquels se retrouve aujourd'hui le Sénat. Nous parlons des actes républicains. Lorsque un ancien président de la République commet des actes de manquement définis dans les articles 4 et 5 de la loi du 26 juillet 2018, qui porte statut des anciens chefs de l'État à la République démocratique du Congo, eh bien, l'article 8 s'applique. Je voudrais ici dire, lorsque nous lisons la Constitution, et même comparativement aux autres constitutions du monde, un ancien président de la République à la République démocratique du Congo porte le statut des sénateurs, c'est un titre d'honneur. Mais il est régi par une loi, et cette loi est connue de tous. Nous nous posons des questions. Et c'est là où vous allez me permettre d'expliquer quelque chose, selon ce que moi je suis cet événement. Les problèmes, je suppose, l'IDPS qui gère les pays aujourd'hui est énervé par certaines sorties médiatiques de l'ancien président de la République. Et je peux donner raison à l'IDPS, puisque c'est lui qui dirige aujourd'hui les pays, lorsque l'article 5 parle du devoir de loyauté envers l'État et l'obligation de réserve sur les secrets d'État que doit avoir tout ancien président de la République, certains discours de l'ancien président de la République a fâché cet article. Et on comprend. Mais ce n'est pas encore grave. L'article 4 de cette loi du 26 juillet 2018, les devoirs des anciens présidents de la République sont contenus dans les articles 62 à 67 de notre Constitution. Et comme tout autre citoyen, tel que mon frère Lamani l'a répété, et donc, même si tu as été un ancien président de la République, on est citoyen de ces pays-là. Il n'y a aucun souci que l'ancien président Joseph Kabila comparaisse devant les juridictions nationales, telles que même cette loi les stipule. Mais est-ce que le gouvernement ne connaît pas les procédures légales pour mettre devant la justice des citoyens qui commettent des infractions? Les problèmes aujourd'hui, Marcel, et je m'arrête par là, je suis d'accord avec mon frère Amani. Est-ce que ces pays traversent quelle situation? Pour l'intérêt de la cohésion et de l'unité nationale, le président Félix Tshisekedi, l'ancien président Joseph Kabila, ne peuvent-ils pas se mettre sur une table, en tant que des grands hommes d'État, sur qui repose l'avenir de ces pays? Quelle est la leçon que nous nous donnons à cette nouvelle génération? Hier, c'était Kabila, aujourd'hui, c'est Félix, ils vont passer. demain, ça sera Sylvain qui sera président de ce pays ou mon frère Amani. Quelle leçon il nous donne, et en tant que les deux grands chefs d'État, l'autre c'est un ancien, l'autre est en fonction, disons, l'un c'est un ancien, l'autre est en fonction. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se dépasser au-delà des courants politiques, des camps politiques, PPRD, IDPS, pour qu'ils puissent signer un avenir radieux pour ce pays? Quel est l'héritage que ces deux vont nous léguer demain, puisque le président Félix Tshisekedi avec deux ans, quand quelqu'un d'autre viendra pour diriger ce pays? Quel est l'héritage qu'il nous laisse? Je suppose, je finis par là, M. Marcel, il voilà. faut rapidement que l'Union africaine et d'autres organisations qui existent puissent inviter ces deux personnalités pour qu'ils discutent avec les pays avant.
Voilà, merci à Sylvain Aguenoff depuis Magui. Donc pour vous, d'une part, il est vrai qu'il faut se conformer à la loi portant au statut des anciens présidents, mais d'autre part, vous estimez également que dans le cas d'espèce, il faut plus privilégier la cohésion nationale. Merci Sylvain Aguenoff d'avoir appelé depuis Magui. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi. Maître Patrick, on vous écoute.
Bonjour Marcel, bonjour l'invité. Kamani, tout à l'heure, mon ami qui a pris parole. Je pense que cette émission a un caractère pédagogique. Nous pouvons revenir encore le même sujet demain ou pourquoi pas également. Je voudrais reconnaître une erreur. Nous, les juristes, souvent nous induisons les gens en erreur. Ça, je le reconnais. Parce que nous permettons à la politique de prendre le dessus sur la science. Et ici, nous efforçons d'être un peu plus scientifiques, Marcel. J'ai entendu les juristes, les professeurs d'université et les autres évoquer la loi de 2018, comme mon ami qui venait de le parler tout à l'heure, évoquant l'article numéro 8, Marcel, pour tout juriste avéré qui a fait ses A, B, B, C, il connaît la hiérarchie des normes. Et dans la hiérarchie des normes, dans ce qu'elles sont, la Constitution prime sur toutes les autres. Et la théorie de la loi écran voudrait que la loi qui est votée soit conforme à la Constitution. Sinon, elle tombe caduque d'office et dans les cas d'espèce. La loi de 2018, elle est contraire à la Constitution, Marcel. Ça, c'est un fait. Deuxième fait également, Marcel. Les constituants originaires, et je mets tout professeur, tout scientifique, juriste avéré, les constitutions de 2006, telles que modifiées, complétées en 2011, n'a pas utilisé le terme ancien président. Non. Il a plutôt utilisé le terme les anciens présidents, l'ancien président élu qui porte le titre de sénateur à vie. Et comme sénateur à vie ou comme parlementaire, c'est la Constitution ainsi que les règlements d'ordre intérieur qui sont des tests légaux qui régissent les comportements, si vous voulez, le régime d'un sénateur comme tout autre sénateur. C'est là où il y a le mal de nous juristes, Marcel. C'est parce que nous considérons que le fait qu'on soit président élu, on devient sénateur exceptionnel et plus super que les autres. Non, cet amalgame doit être retiré dans les têtes des concitoyens. Non, ici, il est sénateur et la Constitution de 2018, plutôt la Constitution de 2006 et aussi les règlements d'ordre intérieur qui prévoient les modes, j'allais dire, les modes processuels ou la procédure pour l'obtention de levée d'immunité également. Mais pourquoi devant l'auditorat général? C'est parce que les actes commis par lui, Monsieur Kabila Joseph, relèvent dès les biens de la Cour de cassation. Mais comme ces infractions ont un caractère militaire, voilà pourquoi l'auditeur général a déposé un réquisitoire, Marcel. Est-ce que ça demande qu'on soit juriste ou qu'on soit politologue pour pouvoir parler des choses comme ça? Je pense que non. Je suis d'accord avec mes amis Amani, qui a évoqué l'article 8, et je lui informe que cet article est contraire à la Constitution et qu'on ne peut pas évoquer ça. Tout juriste le sait. Alors, je suis d'accord avec Amani, je suis d'accord avec les autres lorsqu'ils évoquent un peu l'analyse politique vis la cohésion et autres. Si nous partons dans ces contextes, je suis d'accord avec eux. Mais s'ils abordent la question des droits, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais l'angle politique nous voudrait que non, parce que le pays est déchiré, qu'on puisse mettre le pays en état. À ce moment-là, on peut discuter, on peut dire oui, il y a l'opportunité ou l'inopportunité de poursuivre. C'est dans ce terme qu'on peut évoquer. Mais dire que Joseph Kabila échapperait à toute poursuite et il deviendrait d'office impoursuivable devant la justice ou injusticiable devant la justice, c'est ça relève de l'analphabétisme constitutionnel. voire même
mais maître Patrick, il y a ceux qui estiment que c'est par rapport à la procédure. Les gens estiment que c'est pas au Sénat de traiter de cette question de la levée des immunités Joseph Kabila, c'est plutôt au Congrès.
Non, non, Marcel, je vous dis, je suis maître Patrick Odia, je suis de Lubumbashi, quand même connu, je donne ma crédibilité en jeu. Qu'un professeur d'université, qu'un juriste de renom qui me donne une disposition dans la Constitution, tout comme dans les règlements d'ordre intérieur du Sénat, où on parle que les actes commis en dehors de ces fonctions. Ça veut dire quoi en France facile pour nos mamans, chez moi, à Chilengue, par exemple. Donc, Joseph Kabila, lorsqu'il conduit, comme il n'est pas président, lorsqu'il conduit, il tamponne une maman. Pour qu'il soit poursuivi, il faudrait demander l'autorisation du Congrès. Mais ce n'est pas ça. On parle bien des actes qui ont été commis dans le chef quand il était président. Ça, c'est comprendre. Mais ici, on parle des actes qui ont été commis en dehors de ses fonctions. C'est comme tout Congolais lambda. Comme moi, par exemple, tout élément infractionnel que j'aurais commis en dehors de mes fonctions, je dois être poursuivi au même titre que Joseph Kabila. Mais revenons-en parce que les caractères politiques, si vous voulez, parce que j'ai entendu quelqu'un citer l'IDPS, je pense qu'ici, nous devons éviter de citer l'IDPS, PPRD et les autres. Ici, parlons science. Je pense que les actes ayant été commis par Joseph Kabila sont visibles à l'œil nu et de la part de ses secrétaires permanents et de la part de Joseph Kabila par son comportement et même par les témoins directs, M. Ngunda, Soki Ngunda, qui a cité nommément Joseph Kabila. Est-ce que nous devons nous dévoiler la face? J'ai dit non, absolument. Moi, je pense que si nous voulons parler du caractère scientifique, Joseph Kabila est bel et bien poursuivable devant l'auditorat général militaire. Et aussi, le Sénat est compétent pour pouvoir traiter de la question de lever des immunités ou pas. Mais lorsqu'il s'agit également de l'évoquer la loi de 2018, tout juriste sait pertinemment bien, ayant fait ses études, que cette loi est inconstitutionnelle parce qu'elle va même à l'encontre des chartes internationales, j'allais dire des chartes internationales, qui régissent, lesquelles chartes nous régissent également les comportements sur le plan international. Eh bien, il y a beaucoup d'analyses qui doivent être faites. Mais je pense que beaucoup de juristes doivent éviter la passion politique. Et ici, nous devons parler de la science.
Mais est-ce que, Maître Patrick Odia, on va en finir là avant de poursuivre avec Peter Mabudi depuis Kinshasa. Comment vous, vous analysez un peu ces statuts spéciaux de sénateur à vie pour un ancien président de la République? Parce que un sénateur à vie, il reste toute sa vie sénateur. Comment vous analysez à cette disposition-là?
Ah oui, un professeur, José Tassoki, un grand pénaliste qui nous a quittés, l'avait déjà prédit qu'au moment opportun, on pouvait enlever cette incise qu'on appelle l'article 8 de cette loi fameuse. Et d'ailleurs, j'appelle un courageux de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour que cette loi soit déclarée inconstitutionnelle. Alors, vous me demandez mon analyse par rapport au statut spécial. Je vous dis, Joseph Kabila n'a pas un statut spécial. La Constitution, les règlements d'ordre intérieur parlent d'un ancien président élu qui devient d'office sénateur. Est-ce qu'il y a-t-il un régime spécifique pour un sénateur ayant été président de la République et un sénateur ayant été élu par une province? Je dis absolument non. Et je reconnais que c'est là où il y a beaucoup de confusion dans les chefs de beaucoup de juristes. Et c'est là, ça doit être enlevé de nos têtes. Joseph Kabila reste bel et bien sénateur comme tout autre. Même si aujourd'hui on doit appliquer, que Tshisekedi sache également que la même mesure sera appliquée pour lui, contre lui, si également il y aurait des effets infractionnels également, et tout quiconque serait président et sénateur à vie également. Il reste sénateur, mais je ne vois pas comment on doit gréer cet amalgame dans les champs juristes.
Voilà, merci beaucoup Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. On revient à Kinshasa pour écouter Peter Mabudi. Peter Mabudi, vous avez la parole. Peter Mabudi, on a du mal à vous suivre là. Essayez de vous déplacer à. Donc, Peter Mabudi, on a quelques soucis avec votre liaison téléphonique. On va vous retrouver un peu plus tard. Alors, on va prendre Maître Amani Luamba, qui nous appelle depuis Bukavu. Maître Amani, vous avez la parole.
Merci Michel, merci à tous les auditeurs. Je salue l'intervention de l'Emina confrère et homonyme Amani Frédéric et le confrère Patrick qui venait de faire tout à l'heure. Et je vais commencer par ces propos parce que dans mon introduction, j'ai dit que si la justice devient sentimentale, animée par des émotions, rien ne peut faire avancer notre nation. Et les confrères devraient savoir ça. Je commence par celle-là et qu'il a soulevé lui-même en parlant des actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Là, je parle du sénateur à vie Joseph Kabila Kabang, ancien président du Congo. L'article 8 de la loi que nous avons, sur laquelle nous sommes en train de tourner, la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, cet article vient verrouiller un peu l'attitude ou la procédure à suivre pour atteindre en justice un ancien président de la République ou un sénateur à vie, devenu sénateur à vie. Et là, la loi est claire. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République et ils sont soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. C'est-à-dire que l'auditeur général, quoi qu'il estime que sur le plan matériel, il est compétent, mais cependant la procédure suivie pour solliciter la levée des immunités a été biaisée. Il aurait pu saisir le Congrès. C'est le Congrès qui est compétent pour pouvoir procéder à la levée des immunités. Encore que les immunités d'un ancien président de la République n'est pas prévue ni par la Constitution, ni par la loi spéciale de 2018, de la procédure par laquelle on enlève les immunités de l'ancien président. Là, il se pose une question de droit. La Constitution et la loi spéciale, la Constitution s'arrête à un niveau de l'enlèvement des immunités d'un sénateur ou d'un député. Mais on ne parle pas des immunités de l'ancien président de la République. Cela étant, moi j'estime que cette poursuite n'est pas opportune du fait que les tensions que nous sommes en train de connaître aujourd'hui et qui sont quelquefois qualifiées de chasse à l'homme et qui frisent la cohabitation pacifique et la cohésion sociale au niveau de notre pays, la poursuite de Joseph Kabila pourrait encore accentuer les tensions entre le clivage, comme ça s'est dit.
Mais maître Amani, sur le plan sur le plan politique, maître Patrick Odia estime que si on évoque cette question sur le plan politique pour privilégier la cohésion nationale, peut-être qu'il y a des choses qu'on pouvait accepter, mais il n'est pas d'accord lorsque, d'après lui, il a même reconnu, c'est souvent les juristes, vous avez souvent du mal, vous interprétez souvent les textes, des fois c'est de la confusion pour le commun des Congolais. Bien souvent, les juristes, vous avez des interprétations qui divergent par rapport au texte. Et là, vous parlez de ce texte devant le Congrès, mais maître Patrick Odiana n'est pas d'accord.
C'est là où j'ai dit, dans cette question qui concerne la poursuite de Joseph Kabila, nous devons mettre tout sentiment et toute émotion à part et analyser sous le plan légal et réel. Il est vrai que nous, Parlement citoyen, en 2018 déjà, dès que le projet de cette loi pour sa statue des anciens chefs de l'État et chefs de corps était mis en projet, nous, on avait demandé à l'Assemblée nationale qui existait que cette loi était inconstitutionnelle parce que ça n'allait que protéger certaines catégories de personnes pour les épargner de certaines poursuites. Et aujourd'hui, dans moins de 7 ans, voilà, ça vient apparaître aujourd'hui. Donc, pour le moment, il n'est pas question de sentiments, il est question de voir la réalité des faits. D'abord, sur le plan fait, il y a encore une présomption d'innocence que juste Joseph Kabila. Mais aussi, comme tout juriste, nous devons étudier la compétence et la procédure. La compétence, c'est que pour des infractions citées, elles sont des compétences de la juridiction militaire. Mais par rapport à la qualité de la personne poursuivie, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et non devant la Cour de cassation comme tout autre sénateur. Parce qu'il n'est pas sénateur par voie ordinaire élective, il est sénateur à titre de reconnaissance de son ancien statut de président de la République. Et donc, il n'y a pas une confusion que nous sommes, c'est une question de compréhension, mais aussi la tendance. Chacun a sa tendance, il y a les pro-poursuites,
et ceux qui veulent refuser la poursuite. Mais il y a aussi nous autres qui disons la poursuite est pour toute personne infracteur, mais est-ce qu'il est opportun pour ce moment de pouvoir poursuivre Joseph Kabila? Ça risque l'histoire que nous avons connue en 2006 lors de l'arrestation par la CPI de Jean-Pierre Bemba. Vous vous rappelez comment ça a créé une crise dans la gestion de l'État. Et fortiori aujourd'hui la question de Joseph Kabila, ancien président de la République. Donc j'estime que pour le moment, la question urgente, c'est rentrer à table, négocier ou engager un dialogue national avec Kabila, avec toute autre partie prenante, pour qu'on voit comment d'abord sortir de cette crise sécuritaire dans laquelle nous sommes. Et les questions judiciaires viendront après. Il n'y a pas une justice pendant le moment des crises sécuritaires.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Amani, depuis Bukavu. Junior Mopongo, vous êtes à Kinshasa. On vous écoute.
Oui, merci Marcel. Je salue l'invité et tous les auditeurs de la Radio Kapi. Nous devons quand même nous mettre d'accord qu'il n'y a pas un temps spécifique pour suivre quelqu'un qui a commis une infraction devant les juridictions compétente. Pourquoi j'évoque cette question? Pas plus tard qu'hier, nous sommes en train de vivre une situation où l'institution, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sont en train de se dire est-ce qu'il faut juger ma tata dès lors qu'il est bénéficiaire de ses immunités. Or, la procédure était déjà engagée au départ. Et au nom de l'exclusivité des élections, la Cour constitutionnelle était obligée de s'asseoir le dossier. Vous voyez? Alors, si on s'en tient seulement dans les conditions de favoriser ou de favoriser la politique ou de la paix au nom de la cohésion nationale ou de la paix sociale ou de la démocratie, alors on constitue aussi ombrage à des actions judiciaires. Bon, ceci étant dit, je vais rentrer dans la thématique. Pour dire quoi? En ce qui concerne la levée des immunités du sénateur à vie, je suis en train de me poser la question de savoir jusqu'où peut aller la justice dans un contexte où les droits et la politique s'entrelancent dangereusement. Pourquoi je pose cette question? Dans le sens que la loi numéro 18, par 021 du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus, accorde à ces derniers une inviolabilité spécifique distincte de celle des parlementaires. Quand je dis ici, parce que le statut d'un sénateur à vie, c'est un statut honorifique, ou bien compris dans le sens symbolique. Et dans ces conditions, seul le Congrès réunit conjointement avec l'Assemblée nationale et le Sénat est compétent pour autoriser des poursuites ou une levée d'immunité de cette nature. C'est ainsi que moi, pour l'instant, la justice militaire, se saisissant de l'affaire, ne pourrait pas non plus s'adresser seul au Sénat pour solliciter la levée des immunités. Faire des cas, en tout cas, moi, je suis en train de dire que la justice militaire prend une entorse grave à la procédure. Et elle confond le statut symbolique exceptionnel des sénateurs à vie, prévu d'ailleurs à l'article 54 de la Constitution. Alors, moi, je ne voudrais pas aller dans le sens...
Donc, Junior, vous pensez que la procédure est biaisée au départ, c'est ça? C'est la procédure est biaisée au départ?
Effectivement, la procédure est biaisée.
Voilà, merci Junior.
La procédure est biaisée. Et je suis en train de demander que cela se passe dans les respects stricts de la Constitution et des lois de la République.
Voilà, merci.
Pas dans l'improvisation, encore moins dans l'arbitraire.
Voilà, merci Junior Bopongo d'avoir appelé depuis Kinshasa. Avant de retrouver notre invité Frédéric Amani, je m'en vais lire ces deux réactions. Sur la page Facebook de Parole aux auditeurs, il y a Joseph Botouma qui nous écrit depuis Kisangani. La levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila suscite une vive controverse en RDC. Si une commission du Sénat a été chargée d'examiner la demande de nombreux juristes et acteurs politiques, rappelle que seule une réunion du Congrès est légalement habilité à statuer sur les immunités d'un ancien chef de l'État. Cette procédure est donc remise en question sur le plan juridique. Politiquement, les accusations de collaboration avec la rébellion du M23 contre Kabila aggravent les tensions, certains y voyant une tentative de manipulation politique. Et la situation met en lumière la nécessité de respecter scrupuleusement les procédures légales pour éviter une crise institutionnelle et préserver la stabilité démocratique du pays. C'est cette réaction de Joseph Botouma depuis Kisangani. Une autre réaction, c'est celle de Marie-Paul depuis Kananga au Kasaï central. Par rapport à cette controverse autour de la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila, étant donné les accusations portées à sa charge par l'auditeur des forces armées, nul n'est au-dessus de la loi. Kabila est un Congolais comme les autres, malgré qu'il est soumis au statut d'ancien président, ne peut donc échapper aux poursuites judiciaires si les griefs sont vrais. Cependant, je préconiserai plus le respect de procédures pour la levée de ses immunités pour que le pouvoir en place ne donne pas l'impression d'un quelconque acharnement, encore moins de fragiliser l'opposition. Voilà, ça c'est Marie-Paul depuis la ville de Kananga au Kasaï central. Je reviens à notre invité Frédéric Amani. Vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bien, merci beaucoup. Je salue les points de vue des uns et des autres. Je note dans les différentes réactions, c'est qu'il y a trois camps qui se dégagent. Il y a ceux qui sont d'accord, peu importe la procédure ou quoi que ce soit. Il y a ceux qui sont d'accord et se félicitent que les poursuites soit, n'est-ce pas, déclenché à l'égard de l'ancien président Joseph Kabila. Et une autre frange pense que on peut le poursuivre, mais on doit respecter la procédure. Et respecter la procédure, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès qui lèvent ces immunités. Et une autre frange pense que dans le contexte actuel de la cohésion nationale, de l'agression et d'instabilité, il est important, n'est-ce pas, de surseoir, si on peut utiliser cette expression, de surseoir d'abord cette question, quitte à ce qu'on termine d'abord un dossier urgent, la question de l'agression ou de la guerre. Voilà les trois opinions qui se dégagent au travers, n'est-ce pas, le point de vue des uns des autres. Alors, ce qu'on peut ajouter dans ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un malaise. Et ce malaise est créé ou est mis en place par, n'est-ce pas, les différents points de vue des uns et des autres par rapport à la levée des immunités et par rapport aussi à la guerre à l'Est. Tout ce qu'on peut noter de la situation qui est la nôtre, c'est que moi, je pense que au nom de la cohésion nationale, au nom du vivre ensemble, au nom de la stabilité, je pense qu'on peut aussi surseoir cette question et quitte à ce que d'abord à se concentrer à l'agression et à la stabilité. Un autre élément, parce qu'on parle des actes commis en dehors de ces fonctions. Jusque-là, qu'est-ce qu'on reproche à l'ancien président Kabila? C'est par rapport aux témoignages qu'on a eus de l'ancien collaborateur de Corné Nanga, M. Eric, qui a dit qu'il aurait entendu Corné Nanga et l'ancien président Kabila échanger sur, n'est-ce pas, le soutien qu'il apporterait au M23 et consorts. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais et l'ensemble des citoyens congolais aimeraient savoir les griefs qu'on porte, n'est-ce pas, contre l'ancien président, pour savoir, effectivement, et de telle infraction ou tel acte est, n'est-ce pas, prévu de telles sanctions. Moi, je pense que sur base des preuves, l'ancien président peut être déféré devant les instances. Et en conclusion, pour terminer cette planche, c'est que aujourd'hui, je pense, au regard de la situation qui est la nôtre, l'État n'est pas favorable. on peut poursuivre l'ancien président Kabila comme tout citoyen, parce qu'il est citoyen congolais tout en étant ancien président. Mais et puisque quelqu'un a parlé ici que la Constitution a primauté sur les lois, oui, mais cette loi a été aussi élaborée et mise en place en se conformant à la Constitution. Donc je pense qu'il y a une complémentarité qu'on ne doit pas oublier. Et pour terminer, M. Martel, je pense et j'insiste là-dessus, cher Martel Ngombo, les questions de la République, les questions d'intérêt général, cher Martel, doivent être traitées avec beaucoup de rationalité, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Lorsqu'on parle des questions d'intérêt général, on doit se dépasser d'émotions, des sentiments, sinon on va tomber dans des erreurs. Et pour finir, la force du chef, la force d'un responsable dans une entreprise, dans une structure ou à n'importe quel niveau, ne dépend pas seulement de ses capacités, mais dépend aussi de son entourage. Je plaide et j'insiste là-dessus que nos responsables, à n'importe quel niveau, nous devons, n'est-ce pas, avoir des gens, des hommes et des femmes qui nous entourent, qui peuvent nous dire non alors que nous nous pensions oui, qui peuvent nous dire oui alors que nous nous pensions non, et ça va nous aider et ça va nous éviter beaucoup d'erreurs. Et surtout, au nom de l'intérêt général, nous devons avancer pour laisser à ce pays un souvenir et un héritage dont nos enfants et nos arrière-petits-fils seront fiers et pourront parler de ça à haute voix.
Voilà, on va prendre rapidement le deux derniers auditeurs et puis on reviendra à vous, Frédéric Kamani, pour conclure. Sylvain Bayogueré, vous nous appelez depuis Bukavu. Sylvain, vous avez déjà suivi ceux qui vous ont précédé. Il y a ceux qui estiment que il faut seulement que la loi soit appliquée, c'est-à-dire la disposition qui stipule que seul le Congrès a la compétence de traiter une matière sur la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Il y a ceux qui estiment que la procédure aussi a été biaisée dès le départ. Il y a également ceux qui estiment que il est citoyen congolais comme tout le monde. Il est passible de poursuites judiciaires lorsqu'il pose des actes ayant trait, en tout cas, la sécurité nationale. Rapidement, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Sylvain Bayogueré, depuis Bukavu? Sylvain Bayogueré, depuis Bukavu, je sais pas. C'est Bayogueré, vous êtes à Bukavu, c'est ça? Je crois qu'il y a une petite confusion. Alors, on va prendre Gaëtan Yambenge, qui nous appelle depuis Kinshasa. Gaëtan, vous êtes en ligne depuis Kinshasa? Il y a quelques soucis avec... Là, c'est Gaëtan, c'est ça?
Oui, Gaëtan Yambenga.
Oui, Gaëtan, vous avez la parole. Allez-y, vous avez il y a 2 minutes pour réagir. Allez-y.
D'accord, merci, monsieur le journaliste. Moi, je m'aligne sur la position de notre invité, monsieur Amani. Je pense que le moment n'est pas venu soulever cette question. Parce qu'on parle de la liberté de monsieur Joseph Kabila, on fait une publication sur... sont probables, possibles implications dans le financement de la guerre. Or, nous savons qu'aujourd'hui, pour tous les Congolais, c'est de voir les...
Gaëtan, essayez de vous déplacer. On a quelques soucis avec votre ligne téléphonique. Avec vous, essayez de vous déplacer. Peut-être ça ira mieux.
D'accord. Je pense que là, ça va.
Non, allez-y. J'espère que ça va aller mieux. Allez-y.
D'accord, j'étais en train de dire que je m'alignais sur la position de notre invité, qui est le maître Amani, qui pense que le moment n'est pas bien choisi pour résoudre cette question. Aujourd'hui, lorsqu'on accuse M. Kabila ou lorsqu'on veut procéder au lever de ses immunités en tant que sénateur, on fait allusion à la question relative alors à son possible implication dans le financement de la guerre que nous vivons à l'est de notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Congolais veulent voir les gouvernements trouver une solution qui soit meilleure pour tous les Congolais et notamment pour ceux qui vivent sous l'occupation des ennemis du Congo, genre la FCN23. Et je pense en même temps que nous devons comprendre que la vie d'un Congolais qui vit sous l'occupation de la FCN23 n'est pas moins importante que celle d'un Congolais qui vit sous Kinshasa. Et je parie que si la situation que vivent les amis de l'Est était la même. Si c'était la même situation ici à Kinshasa, nos autorités n'allaient pas réagir avec beaucoup de légèreté que ça. Accuser Kabila, c'est une chose. Prouver qu'il s'est impliqué en est une autre. Et si aujourd'hui Kabila était un peu condamné et que l'État arrivait à l'arrêter, lui va pas accepter que oui, voilà, moi j'ai financé cette guerre. Mais au fait, ça va apporter quoi de nouveau dans la situation à l'est du pays? Aujourd'hui, si on arrive à condamner Kabila, mais est que l'État passe des moyens pour mettre la main sur lui? Parce qu'il faut souligner que jusqu'ici, je pense que certains, même beaucoup, ne savent même pas là où Kabila vit actuellement. Alors, on peut les condamner ici et qu'on ne sait pas l'arrêter.
Voilà, merci à Gaëtan, vous aussi, à vos plaidoyers pour la cause nationale. Merci d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre le tout dernier pour une minute, c'est Onikar Banza. Onikar, vous êtes en ligne depuis l'ICASI, vous avez une minute. Qu'est-ce que vous avez ajouté, Onikar Banza?
Bonsoir, M. Marcel. Bonjour, M. Marcel, des excuses. M. Marcel, je crois que par rapport, j'ai suivi nécessairement les interventions pour ne pas revenir à tous ces questions.
Tout à fait, oui.
Je crois que c'est ici le temps qu'il fallait nécessairement que nos dirigeants prennent conscience sur la cohésion nationale que nous sommes tous en train de rechercher. Je crois que nous avons déjà un ennemi qui nous menace du dehors. Si nécessairement à l'intérieur nous avons plus de frustration, je crois que ça risquerait nécessairement de fragiliser notre unité et nécessairement nous allons tout perdre. J'aurais voulu assez que la norme soit respectée et que nous réduisions sensiblement les frustrations de sorte que les tensions soient entièrement réduites. Pour suivre Joseph Kabila, pour suivre son parti politique, je crois que nous sommes en train largement d'aller au-delà. Si voilà. Vraiment nos dirigeants veulent que nous fassions quelque chose, je crois que c'est ici qu'il fallait appliquer, par exemple, l'adage qui nous dit que linge sale se lave en famille.
En famille, voilà, on n'a plus...
Que nous arrangeons d'abord à l'intérieur.
On a placé des temps. Merci, Onikar Banza. Vous aussi, vous plaidez pour la cohésion nationale. On vous dit merci d'avoir appelé depuis l'ICASI. On va conclure avec notre invité, Frédéric Amani, en une minute. Vous restez formel. Il faut soit on essaie de suivre ce que dit la loi par rapport au statut de l'ancien président de la République pour ce qui est de la levée des ses humanités, ou encore sur le plan politique, on privilégie la cause nationale. Frédéric Amani, vous avez une minute.
Effectivement, il faut qu'on suive la loi, c'est-à-dire le Congrès, et au nom de la cohésion nationale, qu'on puisse arrêter cette histoire. Mais je vais terminer en évoquant Edgar Morin, qui est le philosophe, un sociologue français. Il dit ceci: si nous savons comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de l'humanisation des relations humaines, et aussi la théorie de l'écologie de l'action d'Edgar Morin peut nous permettre de comprendre ce que le Sénat veut faire. Je vous remercie.
Merci beaucoup Frédéric Amani. Je rappelle que vous êtes analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Merci d'avoir été de notre, on espère vous retrouver prochainement. Et voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui est à la mise en nom de ce magazine réalisé et coordonné par Julie Feza Bongonda, Nelson Yombetela pour l'équipe multimédia. Au micro, c'était Marcel Ngomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.